danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face, viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut.
Poincaré vous explique que quand votre pneu de vélo, par exemple, crève, donc il y a moins de molécules après qu'avant, puisque le pneu s'est dégonflé, molécules d'air, donc c'est pas la peine d'avoir, d'avoir une pompe, il suffit d'avoir une rustine et de la colle. Il suffit d'attendre que les molécules reviennent, ou plutôt que d'autres molécules reviennent, parce qu'effectivement, le terme de récurrence de Poincaré vous dit que tout système classique, disons composé d'atomes, régi par des équations déterministes, repassera aussi près que l'on veut de sa configuration initiale. Évidemment, le temps qu'il faut pour qu'il revienne sera d'autant plus long qu'il y a plus d'atomes dans l'affaire. Alors, si vous prenez une boîte vide, dans laquelle il y a une cloison qui sépare cette boîte en deux moitiés égales, dans un premier temps, vous allez mettre un seul atome, une seule boule, dans la moitié de gauche. Vous ouvrez la cloison, la boule va aller un coup à droite, puis revenir à gauche, etc. Donc vous n'aurez pas à attendre longtemps pour retrouver la boule du côté gauche. Maintenant, vous mettez deux boules à gauche. Vous ouvrez la cloison. Bon, déjà, pour qu'elles se retrouvent toutes les deux à gauche, il faudra attendre un peu plus. Puis trois boules, puis quatre boules, etc. Il faudra attendre de plus en plus longtemps. Et puis si vous prenez un nombre d'atomes très grand, comme le nombre d'atomes dans un pneu gonflé, le temps d'attente... Il est très long, mais ce que montre Poincaré, c'est qu'il n'est pas infini. Donc vous attendez. Alors vous attendez plus long que l'âge de l'univers, il faut vraiment attendre longtemps. Et une fois qu'elles sont toutes là, vous collez la rustine et vous repartez. Moi je fais calculer ce temps à mes étudiants et après je peux vous dire qu'ils courent acheter des pompes.
Et à l'intérieur d'une flamme. Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots. C'est pas le diplôme qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau, grâce à cette université des bistrots.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissances, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir. Ils reçoivent aujourd'hui en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'ami Étienne Klein.
Je n'ai pas le temps. Reconnaissez que vous l'avez déjà dit, ou en tout cas que vous l'avez déjà entendu. Qu'est-ce que veut dire cette phrase « je n'ai pas le temps » ? D'abord, ça sous-entend que de temps en temps, on a le temps, il est à nous, et à d'autres moments, il n'est pas à nous. Donc le temps nous appartient de façon intermittente. Mais le sens de la phrase qui est dite là, c'est que la disponibilité ou la liberté qui me serait nécessaire pour faire ce qu'on m'en demande de faire, cette liberté, je ne l'ai pas. Donc quand je dis je n'ai pas le temps, je veux dire que je ne suis pas libre pour faire ce qu'on me demande de faire. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas libre ? C'est parce que le temps, en passant, contraint mon emploi du temps. Autrement dit, c'est parce qu'il y a du temps que je n'ai pas le temps. Et là, vous voyez, je ne vais pas insister, mais vous voyez qu'il y a quand même une petite difficulté. D'accord ? C'est l'existence du temps qui fait que je ne l'ai pas. Bon. À croire que quand je l'ai, du coup, il n'existe plus. Autre truc qui est peut-être encore plus grave, c'est c'est quand on dit que le temps passe. C'est une phrase qui, est, pour le coup, est presque une définition du temps. Le propre du temps, ou plus exactement, ce qui fait la temporalité du temps et qui le distingue de l'espace, c'est le fait qu'il passe. Donc personne ici, je pense, n'oserait contester le fait que le temps passe. La question c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est vrai que le temps passe? Alors que veut-on dire quand on prononce cette phrase? Eh bien on veut dire que les trois moments du temps, qui sont le futur, le présent, le passé, finalement sont en transit permanent, c'est-à-dire que le futur devient du présent, qui lui-même devient du passé. Et c'est cette espèce de glissement des trois moments du temps qu'on appelle le passage du temps. On voit déjà qu'il y a une difficulté, c'est que le passé étant passé ne passe plus. Donc sur les deux moments du temps, il y en a déjà un qui échappe à la règle. Bon, je laisse ça de côté et je conviens que ce que nous voulons dire quand nous disons que le temps passe, c'est qu'il y a ce transit. Bon. Mais est-ce que ça nous autorise pour autant à dire que le temps lui-même passe? Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas définir le temps, c'est vrai. Mais on peut quand même lui attribuer une fonction essentielle, faire une sorte d'hypothèse. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, on peut jouer intellectuellement avec certaines idées, et en l'occurrence, on peut s'imaginer que la fonction du temps n'est rien d'autre que de renouveler l'instant présent. Donc je vais dire, le travail du temps, c'est à chaque fois qu'un instant présent se présente, d'aussitôt le faire disparaître pour le remplacer par un nouvel instant présent. Donc la mission du temps, c'est du moins mon hypothèse, c'est de renouveler le présent. Et de ne pas cesser de le renouveler. Pas question de s'arrêter. Et si cette définition, ou plutôt si cette fonction que j'attribue au temps est la bonne, alors ça signifie que le temps, en fait, fait passer la réalité. Et du coup, le temps qui la fait passer ne passe pas, puisque la réalité ne cesse pas de passer. D'accord ? Donc vous voyez qu'avec cette hypothèse que vous trouvez, je le vois bien à vos visages, ridicule, j'arrive à la conclusion que la seule chose dans l'univers qui ne passe pas, c'est le temps. Et puisqu'il est toujours là, à faire passer la réalité. Or pourtant, on dit que le temps passe. Et donc, en disant que le temps passe, il se peut qu'on commette la même erreur que celle qu'on commettrait si on disait qu'un cahier à musique chante, ou qu'un chemin chemine. C'est-à-dire qu'on confond l'objet et sa fonction. Un chemin ne chemine pas, il permet à des promeneurs de se promener. Un cahier à musique ne chante pas, il permet à des chanteurs de chanter. Le temps ne passe pas, il fait passer la réalité. Donc vous voyez que dire que le temps passe, c'est peut-être dire une grosse bêtise. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la physique, mais la physique moderne, celle de Galilée-Newton, elle a commencé justement par une formalisation du temps qui était en complète contradiction avec le langage. C'est-à-dire que Newton, alors que le langage dit constamment que le temps, c'est le changement, et on dit que quand plus rien ne change, tout se passe comme si le temps avait disparu. Donc on identifie le temps au changement. Ben Newton, il postule dans les Principia, le livre qu'il écrit en 1667, et qui est fondateur de ce qu'on appelle la mécanique, il postule l'existence d'un temps qui ne change pas sa façon d'être le temps au cours du temps. C'est-à-dire que le temps newtonien, le temps de la mécanique, le temps que vous tracez sous la forme d'un axe, pour traduire n'importe quelle courbe, les comptables font ça, les banquiers font ça, avec des courbes qui paraît-il, remontent, mais on ne s'en rend pas tous compte. Ça dépend ce qu'on mesure. Bon, bref, cet axe des temps, vous avez vu qu'il est homogène, c'est-à-dire qu'il contient des instants qui ont tous le même statut. Le temps peut-être passe, tous les instants sont des instants inédits, nouveaux. Chaque instant apparaît pour la première fois, mais il a le même statut que tous les autres. C'est ce qu'on appelle un cours du temps homogène. Ça veut dire que le temps ne change pas sa façon d'être le temps au cours du temps. Autrement dit, le temps échappe au temps. Le temps n'est pas victime de lui-même dans la physique newtonienne. Et donc il y a là une idée qui sera reprise par la suite en physique, qui est en contradiction complète avec le langage. Et donc on a une nouvelle raison, une raison supplémentaire, d'être méfiant à l'égard de notre façon de parler et de peut-être, quand on le peut, utiliser un autre mot que le mot temps pour dire ce qu'on a à dire. Autrement dit, peut-être que le mieux, c'est de pratiquer une politique déflationniste en matière de langage et utiliser le mot temps le moins possible et prendre d'autres mots qui disent mieux ce qu'on a à dire. Alors, cette difficulté du langage, elle est connue depuis très longtemps. Et certains penseurs se sont dit, mais puisque le langage est impuissant, ou trompeur, ou ambigu, peut-être qu'on va pouvoir penser le temps sans le langage. Peut-être qu'on va pouvoir l'associer à des images, à des métaphores, à des analogies, qui le diront en dehors du langage, mieux que le langage. Et évidemment, la métaphore qui revient le plus souvent, c'est celle du fleuve. Et d'ailleurs, qui date d'au moins 2500 ans, puisqu'on trouve cette phrase dans Héraclite, dans des fragments d'Héraclite, que le temps est comme un fleuve et qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, etc. Donc l'idée de l'écoulement associée à l'idée de temps a au moins deux millénaires, elle est peut-être même beaucoup plus ancienne. Et elle a irrigué, c'est le cas de le dire, notre langage. Quand on dit que le temps coule, ça vient de la métaphore du fleuve. Et le problème, c'est que, à cause de cette analogie, on a tendance à attribuer au temps les mêmes propriétés que les fleuves. Autrement dit, la métaphore du fleuve charrie avec elle, quand on l'applique au temps, ce qu'on pourrait appeler des a priori clandestins, qui vont devenir des propriétés du temps, alors qu'au départ, elles n'étaient que des propriétés des fleuves. Ce serait un peu long, mais on pourrait montrer que le temps n'a aucune des propriétés des fleuves. Bon, déjà, le passage, on a vu que c'était suspect, mais à chaque fois qu'on compare le temps à un fleuve et qu'on prend cette comparaison au sérieux, on tombe sur une difficulté. Par exemple, qu'est-ce qui fait que le temps s'écoule, s'il s'écoule ? Dans le cas du fleuve, c'est simple, c'est la gravité. C'est parce que l'amont d'un fleuve est plus haut que l'aval que la gravité fait que ça s'écoule. Mais dans le cas du temps, qu'est-ce qui fait que ça s'écoule ? C'est-à-dire quand vous êtes sur l'axe des temps, à l'instant présent, c'est-à-dire à l'instant où vous êtes présent, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent ? Qu'est-ce qui vous oblige ? Quelle est la force qui vous oblige à suivre le cours du temps ? Bon, mystère. En physique, on travaille là-dessus. Il y a des gens qui ont des idées là-dessus. Il y a des gens qui pensent que cette force, c'est le temps lui-même. Il y en a d'autres qui pensent que cette force est un produit de l'expansion de l'univers. Et il y en a d'autres qui pensent que c'est notre psychologie qui crée l'impression que nous avons d'un temps qui passe. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai du temps, justement. Mais ce n'est pas sûr. En tout cas, on ne le sait pas. Une autre difficulté, c'est que un fleuve s'écoule, ça c'est certain, mais il s'écoule dans quelque chose qui ne s'écoule pas, qu'on appelle son lit ou ses berges. Et d'ailleurs, pour dire l'écoulement de quelque chose, il faut invoquer l'existence de quelque chose qui ne s'écoule pas, dans lequel cette chose s'écoule. Pour dire l'écoulement d'un truc, il faut prendre comme référentiel quelque chose qui ne s'écoule pas avec la chose dont on dit qu'elle s'écoule. Parce que si le lit du fleuve coulait avec le fleuve, on ne dirait pas le fleuve s'écoule. Alors, la question c'est, le temps, s'il s'écoule, il s'écoule dans quoi ? D'accord ? Si tout est dans le temps, dans quoi est le temps ? Quelles sont les rives du temps ? Alors, je donne peut-être l'impression de jouer stupidement avec ces questions, mais en fait, c'est une question fondamentale que s'est posé Einstein, par exemple. Einstein avait une réponse très simple, il disait « le lit du temps, c'est l'espace-temps ». C'est-à-dire l'espace-temps, c'est une sorte d'arène ou de territoire qui existe de toute éternité, c'est la trame de l'univers, si vous voulez, et nous, observateurs, nous parcourons dans cet espace-temps nos trajectoires individuelles, qui sont des trajectoires d'observateurs, et c'est cette dynamique que nous installons dans un espace-temps statique qui crée l'impression que nous avons d'un temps qui passe. Nous sommes, dans ce cas, les moteurs du temps. À cette théorie d'Einstein, elle a un nom, elle s'appelle la théorie de l'univers bloc. Pour la comprendre, ce n'est pas très compliqué, il suffit de prendre le train. On y revient. Quand vous prenez le train, vous regardez par la fenêtre et vous dites « le paysage défile ». Je ne veux pas me moquer de vous, mais c'est un peu stupide. D'accord ? C'est pas le paysage qui défile. Le paysage, il reste là où il est. C'est votre mouvement dans le train qui crée l'impression d'un défilement du paysage. Donc le moteur du défilement du paysage, c'est vous et non pas le paysage. Mais cette thèse d'Einstein n'est pas acceptée par tout le monde. Elle est contestée notamment par les physiciens qui font plutôt de la physique quantique que de la relativité. Parce que c'est une thèse qui pose des difficultés conceptuelles quand on essaie de la comprendre dans le cadre de la physique qui permet de faire de la physique des particules. Donc de traiter l'atome et toutes les particules que l'atome peut contenir. Donc vous voyez que cette transposition rapide du fleuve au temps, là encore, nous pose un problème. Je pourrais continuer longtemps. Je ne vais pas le faire, je vais simplement m'arrêter sur la question de la vitesse. Parce que vous pouvez faire l'expérience quotidienne d'écouter la radio, et je pense qu'il n'existe pas un jour sur cette Terre au cours duquel un journaliste de n'importe quelle radio, je veux dire c'est vrai pour toutes les radios, ne dise pas « le temps passe de plus en plus vite ». Donc c'est l'idée que le temps a une vitesse, et même mieux qu'une vitesse, il y a une accélération. La notion de vitesse du temps, elle vient du fleuve. Pourquoi ? Parce qu'un fleuve a effectivement une vitesse d'écoulement. J'ai pas eu le temps de regarder sur la carte, mais il y a sûrement une rivière ou un fleuve pas loin d'ici. Peut-être la Loire ou le Danube. Bon. Voilà, donc il y a des fleuves, d'après ce que j'ai compris. Il y a des grands fleuves à Corbigny. Mais ils sont moins connus que Corbigny, quand même. Et pour ces fleuves, on peut définir une vitesse d'écoulement. Si je prends un fleuve de référence, permettez-moi de revenir à mes bases, la Seine. On peut définir la vitesse d'écoulement de la Seine. C'est compliqué, parce qu'elle varie dans le temps, elle varie d'un point à l'autre. Il y a même des endroits où elle est négative, c'est-à-dire le cours d'eau, enfin, le courant remonte. Donc c'est compliqué, mais on peut définir cette quantité, la définir mathématiquement, la mesurer. Et donc la notion de vitesse d'écoulement d'un fleuve est une notion parfaitement définie. Et sans crier gare, on transpose cette notion depuis le fleuve jusqu'au temps, et on dit que le temps a une vitesse d'écoulement, et on dit que de temps en temps, il passe plus vite qu'à d'autres. Effectivement, notre perception des durées, elle varie. Ceux d'entre vous qui s'ennuient ce soir ont l'impression que je parle depuis 3 heures. Ceux que ça intéresse ont peut-être l'impression que je parle depuis 20 minutes. Donc notre perception des durées varie selon les sujets, selon l'intensité qu'ils donnent à ce qu'ils sont en train de vivre, selon la passion qu'ils mettent dans le présent qu'ils vivent, etc. Donc notre perception psychologique du temps qui passe est éminemment variable. Mais est-ce que ça nous autorise à dire pour autant que le temps passe avec une certaine vitesse, le temps lui-même, et pas la perception qu'on en a, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. D'abord parce que la notion de vitesse du temps n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que vous avez tous une licence, plus ou moins. Alors, les licenciés savent que ce qu'on appelle une vitesse, la définition canonique de la vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc, dire que le temps a une vitesse, ce serait dire que le temps varie, ou plutôt que le cours du temps, l'écoulement du temps, je ne sais pas comment l'appeler, le rythme du temps, varie par rapport au rythme du temps. D'accord ? Puisqu'une vitesse est une dérivée par rapport au temps, donc on rapporte le cours du temps à lui-même. Donc on ne peut pas dire que le cours du temps va plus vite que le cours du temps, puisque le cours du temps, par définition, il va à la vitesse du cours du temps. Donc la notion même de vitesse du temps n'a aucun fondement. Si vraiment vous voulez définir la vitesse du temps, vous direz que le temps est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures, bon, et vous serez bien avancé. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, on en parle. Évidemment, on se comprend. Ce qu'on veut dire quand on dit que le temps s'accélère, c'est que le rythme de nos vies s'accélère, que le rythme de la production s'accélère, et que nous nous transformons tous, selon notre sexe, soit en cyber-gédéon, soit en turbo-bécassine. Mais ça ne concerne nullement le temps lui-même, mais seulement notre emploi du temps. Donc, vous pourriez me dire, cette objection que j'ai faite n'est pas grave, parce que finalement, on se comprend. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des situations où l'usage de la notion de vitesse du temps nous empêche de nous comprendre. Ou plutôt empêche que les physiciens soient compris. Ce qui est peut-être moins grave, vous me direz. Mais par exemple, quand on raconte la théorie de la relativité d'Einstein dont j'ai parlé, celle de 1905, si vous lisez des livres de vulgarisation, si vous lisez Claude Allègre, par exemple, vous trouverez des définitions de la relativité restreinte d'Einstein qui sont du genre la relativité dit que tout est relatif, que E est égal à mc2. Bon, sur le point, c'est faux. Le deuxième, ça va encore. Et puis le troisième point, c'est la théorie de la relativité montre que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur. Vous avez déjà lu ça ? Le problème, c'est que c'est complètement faux. Et pas simplement parce que la notion de vitesse du temps n'a pas de sens, mais parce que la phrase elle-même n'a pas de sens. Imaginons que ce soit effectivement ce que nous dit la théorie de la relativité. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Donc je suis dans cette salle, c'est donc mon référentiel, et je chronomètre à ma montre le temps qu'il me faut pour lire un livre. Donc je lis un livre, ça me prend 2 heures, et donc dans ce référentiel, c'est-à-dire dans le référentiel dans lequel je suis immobile, il me faut 2 heures pour lire un livre. Bon. Maintenant, je monte dans une fusée qui va, disons, à la moitié de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 150 000 km par seconde. J'y vais évidemment avec ma montre, et dans cette fusée qui va à 150 000 km par seconde par rapport à cette salle, je prends un livre de même taille que le précédent et je mesure à ma montre le temps qu'il me faut pour le lire. Combien je vais trouver ? Je vais trouver 2 heures. Exactement le même temps qu'ici. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Donc la phrase d'avant, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace, est fausse. Il m'a fallu 2 heures là, il me faudra 2 heures dans la fusée. Donc le fait d'être en mouvement n'a nullement changé la mesure des durées pour moi, c'est-à-dire celle que j'obtiens par la lecture de ma montre. Or, cette façon de dire, celle que je critique, a installé dans beaucoup d'esprits l'idée que la relativité nous dit qu'il y a un temps universel, il y a un seul temps, dont la vitesse d'écoulement dépend de l'observateur. Autrement dit, il y a un seul temps dont la vitesse est variable d'un observateur à l'autre. Autrement dit, on n'a qu'un seul temps, mais qui est élastique. Il est élastique, c'est-à-dire il est plus ou moins long selon la vitesse à laquelle on va dans l'espace. Or, évidemment, je vous le dis, mais vous pouvez le vérifier en regardant les équations, ça n'est absolument pas ce que dit la théorie de la relativité, qui dit au contraire qu'il existe autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents. Autrement dit, ce que dit Einstein, c'est que mon temps propre, c'est le mien, par définition, et c'est celui qui indique ma montre. Votre temps propre, individuel, c'est celui qui indique votre montre. Donc ça, c'est pas bouleversant. Mais ce que dit Einstein, c'est que si nous nous déplaçons l'un par rapport à l'autre, moi je rentre à Paris et je reviens, par exemple, quand je reviendrai, ma montre et les vôtres, si vous avez la patience de m'attendre, ne seront plus synchronisées. Contrairement à ce que nous disait Newton, qui parlait d'un temps universel et absolu, c'est-à-dire quoi que je fasse dans l'espace, où que j'aille, et quelle que soit ma vitesse, si ma montre est synchronisée avec la vôtre, quand je reviens, nos montres sont encore synchronisées. Einstein dit non, à condition évidemment que nos vitesses soient très élevées, c'est-à-dire non négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Donc dans la vie courante, si je prends le train, si je prends l'avion, si je prends une navette spatiale, ma vitesse par rapport à vous sera grande, mais négligeable devant la vitesse de la lumière. Donc, quand je reviendrai, nos montres seront en apparence synchronisées. Mais ce que nous dit Einstein, c'est que si on pouvait aller beaucoup plus vite que les navettes spatiales, il deviendrait impossible de prendre des rendez-vous. Ou pour le dire autrement, imaginons un univers dans lequel la vitesse de la lumière, ce ne soit pas 300 000 km par seconde, mais ce soit 90 km à l'heure. La vitesse de la lumière, c'est 90 km à l'heure. Okay ? J'imagine un univers dans lequel on a cette valeur pour la vitesse de la lumière. Tout de suite, je vous quitte, je prends une mobylette et je fais un tour du village. C'est limité à combien ? 50 à l'heure ? Je fais un tour du village à 50 à l'heure. Ça me prend 10 minutes à ma montre. Donc je reviens à ma montre au bout de 10 minutes. Et quand je reviens, qu'est-ce que je vois ? Ben, je vois que vous êtes tous morts. J'ai roulé pendant 10 minutes à la moitié, même plus, de la vitesse de la lumière. Ça suffit pour que vous ayez complètement disparu. Non pas parce que j'ai vécu plus longtemps que vous. Vous, ici, vous allez vivre jusqu'à 100 ans, je vous le souhaite, et même plus. Donc vous allez vivre votre vie normale. Et à votre montre, il se sera écoulé au total depuis votre naissance 100 ans, voire plus. Et moi, à ma montre, parce que j'ai eu cette trajectoire, ce déplacement dans l'espace, il se sera écoulé 10 minutes. Et il me restera, je ne sais pas, quelques années à vivre. Je n'ai pas vécu plus que vous, je n'ai pas vécu plus longtemps que vous, j'ai simplement décalé mon temps propre du vôtre. Autrement dit, ce que montre la théorie de la relativité restreinte, c'est que quand vous vous déplacez par rapport à quelqu'un, en fait, vous voyagez dans son futur. Mais ce qu'elle dit également, c'est qu'il est impossible de voyager dans son temps propre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas voyager dans votre temps à vous. Vous ne pouvez pas retourner dans votre passé, et vous ne pouvez pas faire advenir le futur plus rapidement que la vitesse à laquelle il va arriver. Mais vous pouvez voyager dans le temps d'un autre observateur, c'est-à-dire décaler votre temps propre du sien. Et la bonne façon de faire, la seule façon de faire, c'est de vous déplacer très rapidement dans l'espace par rapport à lui. Donc, personne ne l'a vraiment fait, je veux dire, aucun terrien ne l'a vraiment fait. Quand on fait le tour de la Terre en Concorde, par exemple, on gagne 2 nanosecondes, 2 milliardièmes de seconde. La navette spatiale, c'est un peu plus, mais c'est quand même très, très faible, ça ne vaut pas le coup. Par contre, les particules font ça sans arrêt. Vous savez qu'on a démarré cette semaine le collisionneur du CERN qui s'appelle le LHC, collisionneur de protons sur lequel j'ai un peu travaillé et qui va donner ses premiers résultats dans les semaines qui viennent. On fait des collisions de particules à très haute énergie et ces particules circulent dans l'anneau qui fait 27 km de circonférence quasiment à la vitesse de la lumière. Et donc, pour elles, alors les protons, ce n'est pas un bon exemple parce que c'est des particules qui sont immortelles, donc elles n'ont pas de durée de vie finie. Mais on a d'autres particules comme les muons qui ont des durées de vie très courtes. Par exemple, si vous avez un muon qui est une sorte d'électron lourd, un muon, si vous le mettez dans votre main, là, vous l'avez dans la main, il apparaît à l'instant t égale 0. Donc au moment où il apparaît, vous déclenchez votre chronomètre. Et puis il va disparaître, c'est-à-dire il va se désintégrer en d'autres particules plus légères, en l'occurrence un électron et d'autres particules qu'on appelle des neutrinos. Donc vous avez un muon qui apparaît à l'instant t égale 0, et puis assez rapidement il va se désintégrer en d'autres particules. Et quand vous chronométrez le temps qu'il lui faut pour se désintégrer, lorsque vous êtes immobile par rapport à lui, vous allez trouver 2 microsecondes, donc 2 millionièmes de seconde. Ok ? Maintenant, imaginez que ce muon, au lieu de le garder dans votre main, vous le mettez dans le faisceau d'un accélérateur de particules, qui est circulaire. Donc vous allez le faire tourner dans un anneau, dans des champs électriques qui l'accélèrent, et assez rapidement, ce muon va atteindre une vitesse qui se rapproche de la vitesse de la lumière. On a fait cette expérience au CERN, depuis des années on fait ça. Et bien, ce muon qui vit 2 microsecondes, quand vous êtes immobile par rapport à lui, vous pouvez le faire tourner dans cet anneau des jours et des jours. Autrement dit, la durée de vie du muon, selon que vous êtes immobile par rapport à lui, ou selon que vous le voyez passer devant vous à grande vitesse, ne sera pas du tout la même. Et deux muons, sauf s'ils voyagent ensemble dans le même faisceau, ne peuvent pas prendre rendez-vous. Alors, ils se rencontrent, on se revoit demain à 14h, il y en a un qui part à droite à la moitié de la vitesse de la lumière, l'autre qui part tout droit à un quart de la vitesse de la lumière, ou même quasiment à la vitesse de la lumière, c'est fini. Leurs horaires ne pourront jamais se remettre en concordance. D'accord ? Et donc, nous, on a la chance d'avoir des vitesses qui sont faibles devant celles de la lumière, ce qui nous permet de prendre rendez-vous longtemps à l'avance, de telle sorte que même un voyage Paris-Beyrouth ne modifie pas nos horloges mutuelles, de sorte qu'on peut se retrouver à l'heure dite et à l'endroit convenu.
Danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot. Ce qu'il te faut.
Étienne Klein.
Je pourrais vous parler longtemps de physique, mais je ne suis pas sûr que ce soit la chose qui vous intéresse le plus. Mais ce qui m'intéresse à propos de la question du temps en physique, c'est qu'évidemment, les physiciens, depuis Newton, ont transformé le temps en un paramètre mathématique. Le temps, c'est le paramètre petit t. Et grâce à cette mathématisation, ils ont fait des découvertes qui viennent de la mécanique, qui viennent de la relativité, qui viennent de la physique des particules. Et certaines de ces découvertes sont très importantes et correspondent à ce qu'on pourrait appeler des découvertes philosophiques négatives. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, la physique n'a pas vocation à remplacer la philosophie. Les physiciens ne seront jamais des philosophes. En tout cas, la physique ne répondra jamais à toutes les questions philosophiques. Pourquoi nous sommes là, etc. Comment se tenir droit? Comment fonder la morale? Qu'est-ce que la liberté? Voilà des questions que la physique ne peut pas traiter. Des questions qui la dépassent complètement. Ce qui n'empêche pas que parfois, elle produit des résultats, qui peuvent être des résultats théoriques ou des résultats expérimentaux, qui viennent éclairer, voire contraindre, l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut faire à des questions philosophiques. Autrement dit, la physique peut se comporter comme une contrainte qui va venir corseter l'imaginaire philosophique qu'on peut développer par ailleurs. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est justement de créer, quand c'est nécessaire, ce contact entre les résultats de la physique et puis des thèses philosophiques. Vous savez que Emmanuel Kant, il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle « La critique de la raison pure », dans lequel il formule une théorie de l'espace et du temps absolument géniale, qu'il a tirée d'un examen attentif de la mécanique de Newton. Autrement dit, c'est la mécanique de Newton qui a servi de cadre référent pour que Kant établisse sa théorie de l'espace et du temps, théorie dans laquelle il dit que le temps et l'espace sont des a priori de la sensibilité, enfin, je ne vais pas vous développer tout le truc, mais c'est une thèse extrêmement séduisante, assez convaincante, qui a d'ailleurs convaincu beaucoup de philosophes. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, sachant qu'ultérieurement, c'est-à-dire postérieurement à Kant, il y a eu Einstein, est-ce que la révolution einsteinienne vient démentir la thèse de Kant, ou est-ce qu'elle se produit complètement à l'extérieur de la thèse de Kant, est-ce qu'il n'y a pas de contact entre les deux, ou est-ce que l'arrivée de la relativité d'Einstein vient obliger à remanier certains présupposés que Kant avait considérés comme définitifs et qui en fait ont été contredits ou malmenés par l'avènement de la relativité restreinte. Voilà le genre de questions qui sont intéressantes, qu'en général, on ne traite pas trop parce que soit on est physicien et on ne connaît pas Kant, soit on est philosophe et on connaît mal la physique. Donc ça donne des situations où les gens vivent sur des malentendus. Mais quand on fait l'effort d'aller voir des deux côtés, on voit que la mise en contact de la relativité et du kantisme produit des étincelles qui sont fécondes. C'est-à-dire qu'il y a là une occasion de penser. Il faut donc en profiter. Et donc, ça correspond à ce que j'appelais tout à l'heure des découvertes philosophiques négatives. Et je vais, pour terminer, vous dire en quelques mots quelle est la découverte la plus importante qu'on ait faite en physique au XIXe siècle, et même au XXe, ça n'a cessé d'être confirmé, et qui, à mon avis, devrait être prise en compte par les philosophes. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps est souvent pensé comme étant synonyme du devenir, du changement, de l'irréversibilité. Et quand on parle d'irréversibilité, on ne sait jamais trop bien de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'irréversibilité du temps ou est-ce qu'on parle de l'irréversibilité des phénomènes temporels? C'est jamais très clair. Et il se trouve que la physique a réussi à clarifier cette question. Et elle l'a clarifiée de la façon suivante. Elle nous dit que d'un côté, dans ces équations, il y a le cours du temps. Le cours du temps, c'est-à-dire cette espèce de renouvellement du présent dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce cours du temps, il est irréversible. Il est irréversible. D'accord ? C'est-à-dire que tout instant présent est un instant inédit. L'instant qui arrive n'a jamais eu lieu. Vous connaissez Heidegger. Heidegger, il identifie le temps à la mort. C'est-à-dire qu'il pense que le temps, c'est la mort. Le temps, c'est le mot qu'on a inventé pour ne pas avoir à dire le mot mort tous les jours. Le temps, c'est la finitude du Dasein. Le vrai temps, c'est le temps humain. Non, il y a un temps qui transcende l'humain. C'est-à-dire, quand vous mourrez, votre temps propre peut-être s'arrête, votre Dasein rencontre sa finitude, mais le temps physique continue d'être là. Le temps ne s'arrête pas avec vous. Alors Heidegger disait, mais oui, mais le temps des physiciens, c'est une idéalité. Non, je ne crois pas. Moi, je pense que le temps physique a une réalité au moins aussi grande que le temps humain. Simplement, quand vous dites que le temps, c'est la mort, ou quand vous dites que le temps, c'est le vieillissement, vous confondez le temps et les phénomènes temporels. Le temps, ça n'est pas ce qui vous fait vieillir. Ce qui vous fait vieillir, c'est ce qui se passe dans le temps, pas le temps lui-même. Et là aussi, la physique peut être d'un grand secours. La radioactivité, c'est quoi ? La radioactivité, c'est le fait que certains noyaux d'atomes, vous savez, les noyaux sont formés de protons et de neutrons, mais il y a des noyaux d'atomes qui sont formés dans les étoiles, qui se forment avec trop d'énergie. Et ils vont devoir, à un moment ou à un autre, se libérer de leur excédent d'énergie. Et la façon qu'ils ont trouvé de le faire, c'est d'émettre du rayonnement. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. Donc un atome radioactif, c'est un atome qui est mortel, mortel au sens où il va mourir, pas au sens où il va nous tuer, attention. Même si certains, bon, ce noyau va devoir disparaître en tant que noyau pour former un autre noyau en émettant des rayonnements. Ok ? On parle de durée de vie ou de période radioactive. Et ce qu'on a compris, c'est que les noyaux radioactifs, en fait, sont mortels, comme je l'ai dit, mais quand ils meurent, ils le font sans jamais avoir vieilli. Qu'est-ce qu'on appelle le vieillissement ? Le vieillissement, c'est l'augmentation avec l'âge de la probabilité de mourir. Dans un homme de 85 ans a une probabilité plus grande de mourir dans l'année qui vient qu'un homme de 40 ans. Et c'est cette augmentation de la probabilité de mourir avec l'âge qu'on appelle le vieillissement. Okay ? Et bien, un atome radioactif, qui est mortel, ne vieillit jamais. Évidemment, tous les ans, il prend un an. Mais prendre de l'âge, ce n'est pas la même chose que vieillir. Vieillir, c'est augmenter avec l'âge sa probabilité de mourir. Donc je prends, par exemple, je prends deux atomes radioactifs. Je vais prendre du carbone 14, c'est le plus célèbre. Période 5700 ans. J'en prends un dans ma main gauche qui est apparu, disons, il y a 3 minutes. Il y a 3 minutes, cet atome est arrivé dans ma main. Et j'en prends un autre dans ma main droite qui, lui, a 1 million d'années, ou même 1 milliard d'années d'âge. Question, quelle est la probabilité que celui-ci a de mourir dans l'heure qui vient, et quelle est la probabilité que celui-ci a de mourir dans l'heure qui vient ? Réponse, la même. D'accord ? C'est-à-dire la probabilité qu'un atome radioactif disparaisse dans l'heure ou dans l'année qui vient est indépendante de son âge. Mais il a un âge. Ça veut dire qu'il a subi le cours du temps, mais il n'a pas subi la flèche du temps. D'accord ? Et vous savez que Marie Curie, quand elle a découvert la radioactivité, au début, elle a pensé que c'était le résultat d'un vieillissement, que la matière de l'atome, ou la matière s'abîme, et quand elle est vraiment abîmée, elle se dégrade. Et on a compris que la radioactivité, ça n'est pas un symptôme de vieillissement. C'est un symptôme de mortalité, ce qui n'est pas la même chose. Eh bien, vous savez que les êtres humains, dans les pays développés comme le nôtre, entre 25 et 39 ans, ne vieillissent pas. Car tous les ans, évidemment, on prend un an, mais un homme de 25 ans a la même probabilité de mourir dans l'année qui vient qu'un homme de 35 ans. Donc, au sens propre du terme, on ne vieillit pas. C'est après que ça se gâte, évidemment. Mais jusqu'à 39 ans, tout va bien. Je ne sais pas quel âge vous avez. Enfin, tout va bien. Il n'y a pas de dégradation. Mais évidemment, en prenant de l'âge, on se rapproche du moment où ça va se gâter. Donc vous pouvez dire, c'est grave quand même. Je vais faire la publicité pour un livre qui s'appelle « Le facteur temps ne sonne jamais deux fois », qui dit bien ce que ça veut dire, et dans lequel j'essaie de montrer par quel raisonnement et quel résultat on est arrivé à cette conclusion en physique. Tout instant du temps est un instant inédit. Ce qui veut dire que le temps ne peut pas être circulaire. On ne peut pas retrouver dans le futur un instant qu'on a déjà vécu dans le passé. Le temps est linéaire. Il n'y a pas de boucle. On ne repasse pas par le même instant. Et donc ce cours du temps, il est irréversible. Le cours du temps, finalement, se propose ou se montre à nous comme une sorte de prison à roulettes. C'est-à-dire que nous sommes dans le présent, mais nous y sommes prisonniers. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas choisir librement notre position dans le temps. Évidemment, on peut se souvenir du passé, on peut imaginer le futur, et donc par la conscience ou par les rêves, on peut se balader le long de l'axe des temps, en pensée ou dans les rêves. Mais quand on le fait depuis l'instant présent. Donc on est prisonnier de l'instant présent, et la preuve que cette prison existe nous est donnée par l'existence de l'antimatière. Donc je ne vais pas vous expliquer tout ça maintenant, mais l'existence de l'antimatière, c'est-à-dire le fait qu'il y a des antiparticules, que par exemple l'électron qui est dans nos atomes a un partenaire qui s'appelle le positron, qui a la même masse que lui, mais une charge électrique opposée, ce qu'on appelle le positron, l'antiparticule de l'électron, l'existence de l'antimatière est la manifestation en physique de l'impossibilité de voyager dans le temps propre de chacun. Vous ne pouvez pas voyager dans votre temps propre. Donc vous êtes prisonnier de l'instant présent. Et j'ai dit que c'était une prison à roulettes parce que votre position présente ne cesse pas de changer puisque le présent se renouvelle. Donc vous êtes prisonnier de l'instant présent et l'instant présent, il glisse le long dans le cours du temps. Donc à roulettes parce que ça roule, mais on ne sait pas qui pousse puisqu'on ne connaît pas le moteur du temps. D'accord ? Mais il ne faut pas rêver, on ne peut pas voyager dans ce cours du temps qui est irréversible. Si on prend la physique au sérieux, l'existence de l'antimatière qui est avérée, on accélère des antiparticules, on les fabrique, c'est vraiment des objets banals, prouve que ces voyages dans le temps, dans le cadre de la physique des particules, sont impossibles. Donc il y a d'une part le cours du temps, et comme je l'ai dit à propos de Newton, ce cours du temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Donc ce temps est irréversible, mais il ne change pas. Donc, vous voyez que le temps, ça n'est pas le changement, mais il y a du changement dans le temps. Le temps n'est pas le changement, mais l'instant présent, qui a le même statut que tous les autres, lui change, il se renouvelle. Donc le temps n'est pas le changement, mais il n'est pas sans changement. Et ensuite, il y a autre chose. Il y a tous les phénomènes temporels qui se déroulent dans le temps. Et parmi ces phénomènes, il y en a certains qui sont réversibles. Par exemple, quand la Terre tourne autour du Soleil, après un tour complet, elle revient à la position qu'elle avait au départ. Donc elle a fait un cycle complet et elle se retrouve au point de départ. C'est-à-dire qu'elle a donné lieu, on l'a éprouvé, un phénomène qui est réversible, qui la ramène à son point de départ. Pas à son instant de départ, mais à sa position dans l'espace qu'elle avait au départ. Et puis il y a d'autres phénomènes qui sont irréversibles. C'est-à-dire, par exemple, quand vous mettez du café dans votre lait, ou plutôt du lait dans votre café, ça fait du café au lait. Et c'est foutu. Vous pouvez attendre tout ce que vous voulez, vous ne retrouverez jamais l'état initial. Donc vous avez des phénomènes irréversibles dans lesquels l'état final n'est jamais identique à l'état initial. Ça, c'est ce qu'on appelle la flèche du temps. C'est l'irréversibilité des phénomènes physiques. Donc vous voyez que la physique nous propose une distinction claire et nette entre deux choses que le langage confond. Il y a d'une part le cours du temps qui est irréversible, et qui fait qu'on ne peut pas retrouver dans le futur un instant qu'on a connu dans le passé. Et puis, il y a d'autre part, pour certains phénomènes, ceux qu'on appelle les phénomènes irréversibles, une flèche du temps, qui n'est pas une propriété du temps, mais une propriété des phénomènes temporels, qui fait qu'on ne peut pas retrouver dans le futur un état physique qu'on a connu dans le passé. Et vous voyez qu'en physique, la flèche du temps se superpose, quand elle existe, au cours du temps. Donc il y a d'une part l'irréversité du temps, d'autre part, l'irréversité des phénomènes. Et ce qui est intéressant en physique, c'est que la raison profonde de l'existence de la flèche du temps, c'est-à-dire de l'irréversité des phénomènes, est mal comprise. C'est-à-dire que la physique a un problème avec le devenir. C'est ce qu'on appelle le problème de la flèche du temps, qui date depuis le 19e siècle. Évidemment, il y a eu beaucoup de résultats qui ont été obtenus depuis, mais ça continue d'être une difficulté. C'est-à-dire qu'en physique, on ne comprend toujours pas très bien pourquoi il y a des phénomènes irréversibles. Parce que les équations que nous utilisons, les équations fondamentales de la physique, ne font pas de distinction entre le passé et le futur. C'est-à-dire que d'après la physique,
Si vous filmez un processus physique, n'importe quoi, une collision de boules de billard, n'importe quel truc, ou une collision de particules, vous filmez cet événement avec votre caméscope. Ensuite, vous déroulez le film à l'envers et vous le projetez sur un mur. Si vous projetez le film à l'envers, vous allez voir le phénomène que vous avez filmé, mais à l'envers. Eh bien, ce que vous dit la physique, c'est que le truc que vous allez voir à l'écran, évidemment, il est différent de ce que vous avez filmé. Parce que si vous avez filmé deux boules qui viennent comme ceci et qui s'éloignent comme cela, le film à l'envers va vous montrer deux boules qui viennent comme ceci et qui s'éloignent comme cela. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais ce que vous dit la physique, c'est que ce que vous verrez à l'écran, bien qu'étant différent du phénomène initial, est régi par les mêmes lois physiques que le phénomène initial. Autrement dit, si l'expérience que vous avez faite est possible, ce que vous voyez sur l'écran est également possible. Ça veut dire que d'après la physique, tous les phénomènes peuvent se dérouler dans les deux sens. Ce n'est pas ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Si c'était été, vous avez filmé votre fils ou votre fille en train de plonger dans la piscine et que vous passez le film à l'envers, vous allez vite voir que le film est à l'envers. D'accord ? Donc les phénomènes qui se déroulent autour de nous sont irréversibles. Or, la physique nous dit que tous les phénomènes sont réversibles. Donc on pourrait dire que la physique n'explique pas le monde qui nous entoure. En fait, elle l'explique, mais au prix d'interprétations des équations qui sont assez compliquées. Mais ça nous amène à une question qui est, pour le coup, une question fondamentale. Parce qu'il y a deux sortes de façons de réagir à ce que je viens de vous dire. Il y a des gens, des physiciens ou des chimistes, qui disent « La physique n'est pas capable d'intégrer dans ses formalismes, dans ses équations, l'irréversibilité qui manifestement est une donne manifeste du monde empirique. Nous vivons des phénomènes irréversibles. La physique ne les décrit pas stricto sensu. Elle ne fait qu'expliquer leur irréversibilité par des stratagèmes un peu compliqués. Donc elle est incomplète. La physique n'a pas encore vraiment su traiter la question du devenir, c'est-à-dire de l'irréversibilité des phénomènes. Et puis il y en a d'autres qui disent « Mais si, elle l'a très bien fait, parce que le devenir, ça n'est en fait qu'une illusion. C'est une illusion qui vient du fait que nous sommes composés d'un très grand nombre d'atomes. Nous sommes des systèmes complexes, des systèmes qu'on appelle des systèmes macroscopiques. Et pour nous, il existe une flèche du temps qui est une pure apparence, qui est construite par la complexité de notre corps. Mais les atomes individuels qui nous composent ne savent pas ce qu'est la flèche du temps. Ils ne voient que des phénomènes réversibles. » Et donc, il y a une sorte de débat épistémologique autour de cette question du devenir en physique. Et pour vous montrer comment il s'organise, on va essayer ensemble de faire l'expérience suivante. Je reprends mon histoire de boule de billard. J'en prends que deux. Deux qui entrent en collision comme ceci et qui s'écartent ensuite. Je filme, je passe le film à l'envers. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais voir deux boules comme ceci qui partent comme ça. Le phénomène inversé est tout aussi physique que le phénomène initial. Et d'ailleurs, dans cette salle, ce ne serait pas très difficile de copier ce qui était sur l'écran, c'est-à-dire de faire la deuxième collision. Il suffit de changer les trajectoires incidentes des deux boules. Donc tout va bien. Mais maintenant, au lieu de faire une collision entre une boule et une boule, je vais jouer au billard américain. Vous savez que alors, américain ou français, je ne sais pas, mais enfin, c'est le billard où il y a un triangle dans lequel on met plein de boules. D'accord ? On enlève le triangle brutalement et on envoie une boule perpendiculairement à un côté et ça fait exploser toutes les boules qui étaient dans le triangle. Donc je fais cette expérience. Je la filme et je la projette sur le mur à l'envers. Qu'est-ce que je vois ? Je vois des boules qui arrivent de tous les côtés, qui se mettent en triangle, et une fois qu'elles sont bien en triangle, il y en a une qui part. Je vous souhaite bon courage pour réaliser cette expérience inversée, alors que la physique nous dit qu'elle est tout aussi physique que la première. Je vous laisse réfléchir là-dessus et je répondrai avec plaisir à vos questions.
Peu importe les origines, quand le cerveau fait la cuisine, dans les petits plats, dans six boulots, ce qu'on nous sert, c'est comme il faut.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.
Et à l'intérieur d'une flamme, que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots. C'est pas le diplôme qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau grâce à cette université des bistrots. Hop ! Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.